Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons commencer notre lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. C'est un passage que nous connaissons tous et que nous aimons, n'est-ce pas? Matthieu 7, 7 dit, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. C'est un passage que nous utilisons souvent pour parler de l'exaucement à nos prières, de la fidélité de Dieu. Le passage dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Il y a trois éléments qui reviennent dans ce verset. Le premier, c'est demander, et l'on va vous donner. Le second, c'est chercher. Et le troisième, c'est frapper. C'est trois choses différentes. Amen. C'est vrai que généralement, lorsqu'on lit ce passage, on va toujours demander, l'on vous donnera, demander, l'on vous donnera. Mais il dit juste après, cherchez, vous trouverez. Chercher est beaucoup plus compliqué que demander. En fait, le Seigneur nous montre que dans notre approche de lui, ce n'est pas exactement tout ce qu'on va demander directement qu'on obtiendra. Nous allons demander, nous allons obtenir, mais il parle aussi de chercher. Et on cherche une chose lorsqu'on ne sait pas où elle se trouve, n'est-ce pas? Si tu sais où se trouve un objet, tu ne le cherches pas. Et frapper, l'on va vous ouvrir. Ça parle de poser un acte, d'agir pour avoir un résultat. Alléluia. Donc, c'est trois choses différentes. Lorsqu'on lit le verset, c'est vrai que, généralement, lorsque les gens citent le verset, ils voient, demandez, l'on vous donnera. Mais juste à côté, Dieu dit, cherche, tu vas trouver. La vie chrétienne se divise en trois grandes étapes. Lorsque vous voulez obtenir des choses de Dieu, voir les promesses de Dieu, vous allez connaître trois grands événements avec le Seigneur. Vous allez passer par l'étape de votre vie qu'on appelle l'étape du demander. Il y a la seconde étape qu'on appelle l'étape du chercher, la troisième étape, l'étape du frapper. L'étape du demander, c'est l'étape de la vie chrétienne la plus aisée, la plus facile. Dieu est très présent. On la trouve généralement au début de la conversion, dans les quelques mois qui suivent la conversion. Vous savez, demander, c'est très facile. Tu demandes et puis tu te donnes. C'est la période où on voit beaucoup de miracles. On sent beaucoup l'intervention de Dieu. Alléluia. C'est la période où tous les nouveaux chrétiens ont plein de témoignages à rendre des merveilles de Dieu. Ils avaient des besoins financiers, ils ont prié, le Seigneur est intervenu. Oh, mais l'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant. Bon, c'est la période où on découvre un grand Dieu. On cherche du boulot, on prie, on a le boulot. On est confiant dans notre foi. C'est merveilleux ce Jésus qu'on vient de trouver. C'est l'étape du demander. Amen. Subitement, brusquement, sans vous avertir, Dieu va passer par une seconde étape qu'on appelle l'étape du chercher. Subitement, vous allez vous rendre compte que Dieu a disparu. Vous demandez, vous n'obtenez pas immédiatement. Et vous allez commencer à chercher. Et vous voyez le verbe qui se fait, il dit cherchez, vous trouverez. Le trouver là, c'est au futur. Cherchez présent, vous trouverez, futur. Et c'est là que vous allez commencer à chercher. L'étape du chercher est l'étape de formation de Dieu. C'est le moment où vous criez et vous avez l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond. C'est le moment où vous allez commencer à chercher. C'est dans cette période, beaucoup de gens se posent, est-ce que je ne suis pas possédé? Où est passé Dieu? C'est dans cette période, on a envie d'écouter toutes sortes d'orateurs et de prédicateurs, espérant avoir la solution. C'est dans cette période, on entend qu'il paraît qu'il y a le plus puissant serviteur de Dieu qui est arrivé à Paris. Et vous courez pour aller assister à ses programmes. Il prophétise, il prie sur votre vie, avec foi, vous faites toutes les offrandes possibles, mais après l'avoir laissé, la vie ne change pas. C'est ce qu'on appelle l'étape du chercher. On ne sait pas où est Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur promet que tu vas finir par trouver. Amen. L'étape du désert, c'est l'étape du chercher. Et la dernière étape, ça c'est l'étape de la maturité. Vous savez, frapper, c'est moins compliqué que chercher. Parce qu'au moins, dans frapper, tu as trouvé la porte. Ok? Après l'étape du chercher, vous trouvez la porte, vous devez frapper. Amen. Et là, mais ce n'est pas l'étape du demander. C'est plus compliqué que l'étape du demander, mais c'est moins difficile que l'étape de chercher. C'est le temps où vous frappez, vous agissez, vous savez quels sont les actes que vous opposez, vous connaissez les règles, les principes de Dieu, vous les appliquez et vous avez des résultats. Si vous ne les appliquez pas, vous n'avez pas de résultats. Ça veut dire que si vous ne frappez pas, on ne vous ouvre pas. Vous savez qu'il faut frapper. Ces mêmes étapes se retrouvent dans la vie de tout individu. Lorsque nous naissons, lorsqu'un enfant est avec vous, l'enfant connaît l'étape du demander. Tout ce qu'il demande à sa mère ou à son père, on lui donne. Mais il ne sait pas comment ses parents font pour le mettre à l'école, comment on le nourrit. Il vit le temps du plaisir. Maman, j'ai faim, je veux ceci, je veux cela. Il a tout. C'est ce qu'on appelle l'étape du demander. Et nous avons cette étape avec le Seigneur. À un moment donné, le père va commencer, à prendre l'enfant à voir comment est-ce qu'on fait pour lui donner sa nourriture de tous les jours. Il va apprendre, c'est ce qu'on appelle l'étape de chercher. Il va commencer à se développer, l'enfant va connaître l'adolescence, les conflits intérieurs, rechercher sa destinée, pourquoi il est sur la terre, qu'est-ce qu'il a envie de faire, quel est son avenir. C'est une période de trouble, c'est une période difficile, mais c'est la période qui forme un homme. Alléluia, ça prend de longues années. Mais lorsqu'il a passé cette étape-là positivement, il devient un homme mature qui a trouvé sa situation, qui travaille. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner son pain. Tous les jours, il va au boulot. C'est ce qu'on appelle l'état du frapper. Et il sait comment on obtient le pain. Il ne va plus jamais se retrouver à l'étape du demander. Oui, dès qu'il demande, il reçoit parce qu'il n'est plus un bébé. Mais il sait comment ses parents faisaient pour nourrir. Et lui aussi, il est capable d'agir et d'avoir. Alléluia. Il sait que si tu veux ceci, voilà comment est-ce qu'il faut travailler. Amen. Donc la vie de tout individu, même physiquement, évolue à ces trois niveaux. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. Israël aussi est passé par ces trois étapes. De l'Égypte jusqu'à la mer morte. La mer où tu devais travailler, qui devait traverser, pardon, ils ont connu l'étape du demander. Un Dieu gentil. Les Juifs, les Égyptiens veulent les punir. Moïse lève le bras. Il les plaît. Il voit un Dieu de miracle, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Alors il dit à Moïse, nous sommes prêts à te suivre. Si ce Dieu-là agit comme ça sur les Égyptiens, mais il est merveilleux. Oh, nous allons le suivre. Et ils vont décider de suivre Dieu. Ils arrivent devant la mer. Ils sont effrayés, ils ont peur. Parce que les Égyptiens arrivent. Moïse tend le bois. Et la mer s'ouvre en deux. Israël passe à sec. Alléluia. La mer se referme sur les Égyptiens. Et non. Nous avons un grand Dieu. Mais ils ne savaient pas quand ce jour était fini l'étape du demander. Ils vont rencontrer Dieu dans le désert à sa façon. Subitement, il n'y a plus d'eau à boire. Et Israël va rester 40 ans dans le désert. Ce n'était pas prévu qu'il reste 40 ans. Il devait rester quelques mois. Au plus, peut-être même un an ou deux ans. Mais Israël va faire 40 ans. Pendant ces 40 années de désert, ils vont manger la manne. Ça, je me demande comment ils ont pu faire ça. C'était leur nourriture tous les jours. Ah, ça, c'est d'être horrible. Hein. Imaginez-vous quelqu'un. Matin, hamburger frites. Midi, hamburger frites. Le soir, hamburger frites. Une journée. Le lendemain, hamburger frites. Le matin, hamburger frites. À midi, hamburger frites. Le soir, ah, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, je sais que parmi nous, on va dire, mais... Merde alors, il n'y a plus autre chose, on ne peut plus rien manger dans cette maison. Et ils ont fait, pas un jour, ni deux jours, mais 40 ans. Ça veut dire que quelqu'un est né, il a eu jusqu'à 40 ans, et il n'a que pour nourriture la manne. Alléluia. Ça, c'est l'étape du chercher. Vous vous demandez où est ce Dieu d'abondance. La même nourriture, tous les jours. Les mêmes problèmes qui n'en finissent pas. Et Dieu vous dit de persévérer. Alléluia. L'étape du désert. Amen. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Dans l'étape du désert, vous savez, tout le monde est obligé de passer par là. Tu dois passer par le désert. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu ne passes pas par là. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la période du frapper si tu ne traverses pas la période du chercher. Israël devait faire quelques mois, une période très courte dans le désert. Mais Israël a fait perdurer son désert. Je parlerai donc, je te rentrerai dans quelques mots, l'importance de traverser le désert, mais l'importance aussi de ne pas prolonger son temps de souffrance. Alléluia. Ton comportement et ta façon d'agir peuvent prolonger ton désert. C'est normal que tu aies un désert. Vous savez, quand Dieu vous parle d'élévation, je vous dis toujours, si Dieu vous parle d'élévation, vous voyez une montagne, courez pour aller vers la montagne. Mais sachez que juste avant la montagne, il y a un grand trou. Toujours. Avant l'élévation, il y a la vallée. Alléluia. J'ai un ami, le pasteur Jean Marco, qui a donné cet exemple. Il dit, il y a trois V dans la vie chrétienne. Premier V, c'est la vision. Le troisième V, c'est la victoire. Quel est le deuxième V? La vallée. Avant la vie, vous commencez par la vision, vous aurez la victoire, mais vous allez passer par la vallée. Alléluia. Nous lisons Exode, le chapitre 4, à partir du verset 18. Il est dit, Moïse s'en alla, Exode 4, 18. Je lis, on a beaucoup de passages à lire aujourd'hui, donc je vais aller assez vite. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'enduirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang » et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Alléluia. Voilà donc le prophète Moïse à qui Dieu accorde une grande vision. Dieu dit à Moïse, « Va libérer mon peuple. Je t'accorderai la puissance et c'est par un bras puissant que je vais délivrer mon peuple, mon fils premier-né, de la main de l'Égypte. » Moïse obéit à l'ordre de Dieu. Il prend sa femme. Et ils vont maintenant pour l'Égypte. La Bible dit que en chemin, pendant la nuit, dans un lieu où il s'est arrêté pour passer la nuit, pour dormir, il n'est pas dit que le diable, il n'est pas dit un démon, l'Éternel lui-même qui a envoyé Moïse, attaqua Moïse. La Bible dit avec l'intention de le tuer. Ça peut vous choquer, je sais que c'est choquant lorsqu'on lit ça, mais c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alléluia. Je reprends verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Comment Dieu, qui la veille m'a envoyé avec un message si clair, me demandant d'aller accomplir une mission bien précise, peut-il vouloir me tuer la nuit? Vous voyez ce passage-là, je ne vais jamais le comprendre entièrement, mais... Alléluia. Dieu voulait le tuer. Vous savez, c'est tous ces passages, moi, qui me font... J'ai dit, la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Parce que si on écrit un livre pour séduire des gens, on ne met pas des versets comme ça. Si on écrit un livre pour tromper, pour dire, venez, l'évangile, c'est beau, vous allez tout avoir, on n'écrit pas des choses comme ça. À une condition que Moïse était naïf. Mais il n'était pas naïf, c'est trop beau. C'est trop contradictoire. Dans le même passage. Et on ne sait même pas ce que Moïse a fait. Il était juste en chemin pour l'obéissance à Dieu et Dieu vient le tuer. Vous êtes choqués par l'intention de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme de Moïse va sauver Moïse. C'est pourquoi c'est très important, le mariage des femmes. Alléluia. Elle va circoncire son fils. Elle va lui enlever le prépuce et elle va jeter ça sur le pied. On revient tout justement sur les pieds ici. Sur les pieds de Moïse, et Moïse va être sauvé. Dieu a voulu tuer Moïse parce que Moïse n'avait pas fait circoncire son fils. Vous savez, je donne ce passage pour dire que Dieu nous donne une vision. Et Dieu veut que tu aies une vision. Mais il y a des choses qu'il faut vivre, qu'il faut être pour atteindre le but. Amen. En fait, Dieu savait que Séphora serait intervenue pour sauver son mari. Et ici, c'est l'image du désert parce que Moïse était dans le désert. La Bible dit, dans le désert, en un endroit, il voulait passer la nuit. Le désert, c'est cet endroit-là où si vous ne passez pas par la circoncision, alléluia, vous allez vous arrêter. Et si vous comprenez les voies de Dieu, si vous obéissez au Saint-Esprit, vous allez entrer dans votre vision. Tout ce que je vais citer tout à l'heure en ce qui concerne les éléments du désert ne sont qu'inclus dans le phénomène de la circoncision. Je vais la traduire par la circoncision du cœur. Ça revient à beaucoup de choses que j'ai dites depuis le début de ces enseignements. Mais nous allons entrer dans plus de détails en parlant de 10 éléments particuliers, de 10 éléments principaux qui interviennent dans le désert. 10 tentations du désert, les 10 épreuves du désert, les 10 épreuves qu'il faut vaincre. Israël a échoué dans ces 10 épreuves. Et c'est à la 10e épreuve exactement que Dieu a dit, c'est bon, vous allez faire 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que cette génération ait disparu. Réussis donc ces 10 épreuves et ces 10 tentations. Ça ne raccourcit pas. Mais vous permet de finir à temps votre désert. Amen. Parce que il y a un temps pour le désert, mais il y a un temps aussi pour la victoire. Le pasteur Mathieu, dans son message, disait, les épreuves ont une date d'expiration. Oui, les épreuves ont une date d'expiration. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu souffres tout le temps. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour pleurer. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est vrai que tu vas passer par des moments difficiles, mais le plan de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses. Et il y a certains qui prolongent le temps du désert, comme Israël. Ils arrivent dans le désert, ils ne passent leur temps qu'à murmurer, à se plaindre. Et ils trébuchent généralement dans ces 10 tentations. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons donc de ces 10 tentations. Je ne pourrai pas tout finir seulement le matin, je finirai cela dans l'après-midi. Amen. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 17. Il est dit dans ce passage, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Ici encore ressort la nécessité de passer par le désert. Donc Israël a quitté l'Égypte et la Bible dit que il y avait un chemin plus court. Ce chemin-là, à traverser ce chemin, fait à peu près 2 semaines. En 2 semaines, Israël sera arrivé dans la terre promise. En 2 semaines au plus. 2 semaines de marche étaient suffisantes pour arriver jusqu'à Canaan. Mais lorsqu'ils allaient rentrer, ils allaient arriver au sud de Canaan, ils allaient rencontrer le peuple des Philistins, qui était un peuple très belliqueux. Et Dieu avait dit, lorsque Dieu avait fait les promesses, Abraham, lorsque Dieu avait fait les promesses, c'était, il y avait des peuples bien précis qui devaient être dépossédés. Et dans ces peuples précis, n'étaient pas cités les Philistins. Alors Dieu va leur demander de faire un détour. Tu vas leur faire un détour, prendre un chemin plus long par le désert. Vous savez, vous allez avoir sûrement de Dieu une vision. Et tout le monde doit avoir une vision. Tout à l'heure, je parlerai de la vision. Amen. Mais je sais que votre pasteur, il parle beaucoup de la vision. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la vision. Amen. Je dis peut-être 2 ou 3 mots. Et quand vous voyez ce que Dieu va réaliser avec vous, quand vous savez ce que Dieu va faire avec vous, parce qu'il faut avoir une vision, ça vous paraît tellement plus facile pour Dieu de vous amener là, vous a montré. Par exemple, Dieu te montre que il va te bénir dans les affaires, tu seras multimilliardaire, tu vas influencer le monde par la puissance de l'évangile, sponsorisant, soutenant financièrement les missions partout dans le monde, ouvrant des églises. Et souvent, on se dit entre nous, oh, si on avait l'argent, on aurait pris de grands panneaux publicitaires, écrit Jésus est Seigneur, passe avoir des sports à la télévision pour évangéliser toute la France. Vous voyez ça, c'est tellement beau. Oh, si nous avions les moyens, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Si nous avions les moyens. Quel type de campagne n'aurait pas pu organiser en Afrique, dans les pays, avec les peuples non atteints? Tout ça, je sais que beaucoup parmi nous rêvent à ça. Qui rêve à ça? Voilà, ça c'est du rêve. Allez, nous tous, on veut. Alors, il y a un chemin plus facile. C'est de commencer déjà pour Dieu à bénir tes affaires. Et à faire que tout ce que tu vas poser comme acte puisse réussir. Et qu'en moins de 1 an, de 2 ans, 3 ans, tu sois multimilliardaire. Ça, c'est le raccourci. Mais Dieu ne prend pas le chemin le plus court. Et il te fait faire un détour dans le désert. Parce que qu'est-ce qui empêche Dieu maintenant de commencer à t'élever? Qu'est-ce qui empêche Dieu maintenant? La Bible dit que c'est lui qui incline le cœur des hommes. Si Dieu veut que ton entreprise soit bénie, ton entreprise sera bénie. Il n'a qu'à décider. Si Dieu veux que ton entreprise soit bénie, que tu n'aies même pas besoin de faire de publicité. Dieu va mettre au cœur de tous les hommes ici à Paris d'aller dans ta boutique, dans ton magasin, d'aller voir ton entreprise et de souscrire avec toi. Dieu peut le faire sans publicité. Mais Dieu n'utilise pas le raccourci. Alléluia. Oui, Dieu n'utilise jamais le raccourci. Pourtant, le chemin paraît si facile, si simple. Il fait toujours un détour, et le détour par le désert. Alléluia. Et actuellement, beaucoup parmi nous sont dans le détour. Qui est dans son détour? Qui est en train de contourner par le désert? Moi, je suis en train de contourner par le désert. Alléluia. Mais je crois que je suis vers la fin. Amen. Non, mais je crois une chose, c'est que je sais que chaque fois que vous voulez atteindre une dimension supérieure, il y a toujours un petit désert que vous rencontrez. Si vous avez fini d'atteindre le niveau de la vision, vous êtes satisfait. Mais vous savez, un visionnaire n'est jamais satisfait. Il y a encore une autre façon encore qui se lève. Et par rapport à cette toute vision, il va encore payer un autre prix. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu va te faire faire le détour. Dieu est capable d'attirer beaucoup de monde en un seul jour. Regardez le jour de la Pentecôte. Pierre est sorti, il s'est mis à prêcher. La Bible dit qu'il y a eu 3000 conversions. Il n'y a pas eu d'affiche dans la ville. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour critiquer le groupe, mais il n'y a pas de groupe musical ce jour-là. Il n'y a pas une partie d'adoration pour commencer le culte. La foule est venue au bruit de la présence de Dieu. Et Pierre s'est mis à prêcher. Il y avait plus de 3000 hommes et femmes dans l'endroit. Et en une prédication, sans micro, ni amplificateur. Je ne sais pas comment il a fait pour parler, mais il y a eu 3000 conversions. Ça veut dire plus d'individus qui ont entendu parler. Je ne sais pas comment on peut parler à une foule de plus de 3000 à 5000 personnes sans micro. Jésus le faisait aussi. Et les apôtres ce jour-là l'ont fait. Voilà, et nous, malgré tous nos médias, nos campagnes, tout ce que nous faisons, je n'ai jamais vu, moi j'ai rarement vu un évangéliste, un croisade gagner 3000 personnes en un seul coup. 3000 personnes converties en un seul coup. Et alors Dieu peut tout faire. Mais Dieu veut qu'on passe par un détour. Jésus aurait pu venir dans ce monde de manière glorieuse, comme je le disais autrefois. Ne pas naître dans une étable, apparaître comme le Fils de Dieu. Dieu aurait pu créer un hôpital climatisé en cette époque, à l'an zéro, avec des anges qui seraient venus soulever Marie, la prendre et la mettre dans cet hôpital, parce que c'est le Fils de Dieu qui arrive, le roi des rois, et envoyer les meilleurs anges qui savent faire accoucher, pour faire accoucher Marie, et soulever Jésus devant la population du monde et dire, regardez le Fils de Dieu. Et nous sommes convaincus qu'en ce moment-là, tout le monde aurait cru en Jésus. On dit, mais sûrement, voilà Dieu qui est arrivé. Avec une telle circonstance de naissance, ça ne peut être que Dieu. Mais Dieu n'est pas passé par là. Jésus est né dans une étable, au milieu des moutons. Dieu aime faire passer par le détour du désert, au lieu d'aller par le chemin le plus court, qui vous met rapidement à la gloire. Ne veut-il pas que les gens croient en Jésus? Alors pourquoi fait-il tant de détours? Jésus est venu pour sauver l'humanité, mais il se présente très souvent comme un faible. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Comme je dis par exemple à sa résurrection, je ne trouve pas que c'est normal que Jésus n'ait pas apparu à l'humanité après sa résurrection. Jésus a enseigné devant toute la foule pour dire, détruisez ce corps, en 3 jours. Il sera détruit ce temple, en 3 jours il va être reconstruit. Et il parlait de son corps. Il dit, de même que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Et il a dit ça en public. Ça faisait partie des accusations des pharisiens contre lui. Quand Christ est mort, tout le monde l'a vu mourir. Mais à sa résurrection, il n'a apparu qu'à ses disciples. Ça aurait été tellement plus facile d'aller encore au temple de Jérusalem, de s'arrêter pour dire, voilà, peuple juif, vous m'avez crucifié. Je suis de retour. Tout le monde l'a vu mort à la croix. Tout le monde l'a entendu dire qu'il allait ressusciter. Mais quand il ressuscite, il n'apparaît qu'à quelques personnes. Ça, c'est pas logique. Il apparaît qu'à ceux qui ont cru en lui, ses disciples. Alors, et puis, il monte au ciel. Et les disciples se retournent dans la rue pour dire, Jésus-Christ est ressuscité. Les gens posent la question, mais où il est? Il est monté au ciel. Je suis convaincu que beaucoup auraient dit, mes amis, c'est trop facile, vous n'avez rien à dire, ok. Mais voilà la voie de Dieu, mes frères. Dieu veut que nous passions par le chemin du détour. Le raccourci est possible. Mais Dieu dit non. Il va faire un détour. En 15 jours, j'aurais pu arriver dans la promesse de Dieu. Mais il a voulu faire le détour par le désert. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par ton désert. Tu connaîtras des choses qui ne sont pas du tout logiques. Des raccourcis que Dieu aurait pu emprunter pour te lever, pour te faire entrer dans ta vision, dans ta destinée, dans les choses qu'il t'a promises. Mais Dieu ne passera pas par là. Dieu ne passera pas par là. La gloire te semble tellement si proche. Mais c'est très simple, Seigneur. Il suffit que tu fasses ça. Hein? Voilà, 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 voilà. Et là, on a atteint la destinée. C'est fini, ça. C'est pas compliqué, ça, Jésus. Alléluia. Je veux que tu fasses un détour. Dis à ton voisin, le détour. Alors, Israël va faire le détour dans le désert. Mais avec une vision, ils allaient à la terre promise. Ce que Dieu leur avait promis. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent parce qu'ils aiment prendre les raccourcis, parce qu'ils refusent le détour du désert. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et Israël va passer par le désert. Et Israël sera confronté à 10 tentations, 10 épreuves. Et vous serez confronté aussi à ces 10 épreuves dans votre désert. Si vous les réussissez, le temps de votre désert sera le plus bref possible. Ça veut dire le temps minimum pour traverser le désert. Mais si vous échouez, c'est tellement important pour Dieu que vous puissiez réussir votre désert, qu'il va vous faire rester davantage dans le désert. Et vous allez prendre beaucoup plus de temps pour traverser. Mais sachez que c'est obligatoire. Si vous ne voulez pas passer par le désert, vous pouvez rester en Égypte, ce n'est pas grave. Mais je pense que vous allez vouloir venir dans le traverser, faire le détour du désert. Amen. Donc après la mer rouge, Israël va se retrouver. Et nous lisons Exode chapitre 15. La première tentation à laquelle Israël va être confronté. Verset 22 à verset 25. Il est dit, Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Je voulais juste avant de lire ce verset, je voudrais qu'on lise pour confirmer ces 10 tentations du désert. Lisons le Nombre chapitre 14, verset 22. Pour dire que ce n'est pas moi qui les invente pour les citer. Nombre chapitre 14, verset 22, il est dit, ça c'est Dieu qui parle, verset 21, bon, je commence au verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Vous voyez ici les questions clairement des 10. Il dit, m'ont tenté 10 fois. Et c'est la raison pour laquelle ils n'entreront pas dans la terre promise. Alléluia. Et le Seigneur précède le verset en disant, je suis vivant de l'Éternel, ma gloire remplira toute la terre. Le chemin de Dieu pour que sa gloire remplisse toute la terre, ce que nous voulons, ce dont nous rêvons, ce à quoi nous rêvons, cette vision que nous avons, passe obligatoirement par le désert. Et nous serons confrontés à ces 10 tentations. Il y a plusieurs passages de l'Écriture encore qui parlent de ça. Vous les avez, Genèse chapitre 31. Il s'agit ici de Jacob qui parle des 10 tentations que lui aussi, des 10 tentations qu'il a subies avant d'entrer dans sa promesse, verset 7 et verset 41, il dit, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc il a eu 10 tromperies, 10 grandes tromperies, 10 choses qui ont fait que pendant ce temps de désert, parce que sa période de souffrance pour lui, Jacob, c'était lorsqu'il était chez Laban. Il a fait 20 ans chez Laban. 20 ans dans la souffrance. 20 ans d'être trompé. Et il a eu 10 tentations aussi. Il cite les 10 épreuves qu'il a connues. Et il les rappelle aussi dans le livre de le même Genèse, chapitre 31, verset 41. Il y a aussi une référence dans le livre de Job. Job parle aussi des 10 fois. Mais je n'ai pas noté cette référence. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose en fait qu'on dit pour citer 10. Il y a 10 éléments auxquels vous serez confrontés dans votre désert. Alléluia. Alors le témoignage que nous avons le plus sur le désert, c'est celui d'Israël. Mais tout homme de Dieu ne peut entrer dans sa destinée sans passer par là. Joseph a connu ça. Joseph a connu une période de désert qui lui a valu près de 17 ans de souffrance. Abraham aussi pareillement. Mais tous ces gens sont entrés dans leur bénédiction. Je vais vous dire une chose. Plus votre élévation est grande, plus votre vision est grande, plus votre désert sera compliqué. Alléluia. Plus ce que vous devez avoir est grand, plus votre désert sera compliqué. Nous revenons donc en Exode, chapitre 15, versets 22 à 25, pour parler de la première tentation. La première épreuve du désert. Il est dit au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? La première tentation que vous connaissez dans le désert, c'est les inquiétudes pour les besoins primaires. Ici, le peuple avait soif. Ils avaient envie de boire. Il aurait été plus simple pour eux de parler à Dieu, de dire, Moïse, nous avons besoin de l'eau, prions que Dieu, qui a fait les miracles en Égypte, puisse pourvoir parce que nous n'avons pas d'eau. Mais comme dans la période ils demandaient, ils n'avaient même pas besoin de souffrir pour obtenir quelque chose, ils avaient gardé cette habitude et ils pensaient que d'office, Dieu sachant qu'ils ont besoin de l'eau, leur aurait donné immédiatement l'eau. Ne voyant pas l'eau, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ça parle des inquiétudes. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31, verset 34, Dieu dit dans ce passage, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou les choses que vous allez boire. Ce dont Dieu voudra vous délivrer lorsque vous arriverez dans le désert, c'est votre inquiétude pour les besoins primaires. Les besoins primaires, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est le vêtement, c'est le boire. Et puis on peut lire encore dans les besoins primaires, la protection. Ce dont l'homme a besoin, pour commencer. Ce dont l'homme a besoin. Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire. Alléluia. Dans cette épreuve, Dieu a besoin que vous ayez une totale confiance en lui. J'ai dit qu'il fallait passer par la circoncision. Que Moïse, dans le désert, a connu la circoncision. Ça veut dire que Dieu a amené Moïse dans cette situation pour qu'il puisse enlever le prépuce de son fils. La circoncision, c'est la transformation de notre cœur. C'est la transformation de nos désirs humains primaires, même logiques. Lorsqu'on parle de circoncision, c'est quoi la circoncision? Vous savez qu'il s'agit d'enlever sur le sexe d'un homme un prépuce, le prépuce, qui est de naissance. C'est quelque chose qui est normal. Ce n'est pas un élément qu'il a ajouté. La nature de l'homme depuis Adam et Ève a une nature pécheresse, a un problème, génétique, qu'il faut enlever. La circoncision va consister pour Dieu à ôter de votre cœur tous ces éléments-là. Et les 10 épreuves sont là pour ôter de vous tous ces éléments de la chair, tous ces éléments-là à circoncire, le prépuce. Alléluia. Paul dit, soyez circoncis de cœur pour ôter le prépuce. Les instincts avec lesquels vous êtes né. Lorsque quelqu'un ne peut pas manger, lorsque quelqu'un s'inquiète pour un problème de boulot et qu'il commence à paniquer, comment est-ce que je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais faire ci? Comment est-ce que je vais faire ça? Il est en train d'échouer sa première tentation. Alléluia. J'ai dit la dernière fois que si votre zèle et votre amour pour Dieu prend un coup lorsque vous n'avez pas d'argent, c'est que ce n'est pas normal. Amen. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont eu de gros chèques, dansent et louent le Seigneur à l'église. Tu es vivant. Mais lorsque ça ne va pas, ils arrivent à l'église tristes, le visage renfrogné, se posant des questions. Je dis, ce n'est pas normal que la présence d'argent en vous détermine votre joie ou votre tristesse. Jésus a dit dans sa parole, ma paix, je vous la donne, comme le monde ne peut pas vous la donner. La paix que le monde donne, c'est la paix de l'argent. La paix que le monde peut vous donner, c'est la paix du mariage. La paix que le monde peut vous donner, c'est quoi? C'est un bon boulot. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un bon boulot. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être riche. Alléluia. Le monde peut vous donner ces choses. Mais Dieu, il a une paix qui est différente. Il dit, ma paix, je vous la donne. Comme le monde ne peut pas vous la donner. Cette paix, lorsque vous l'avez, même quand vous n'avez rien, vous bénissez tout en Dieu. Alléluia. Même si votre mari vous persécute à la maison, vous, il y a une paix qui est dans votre cœur qui est inébranlable. Elle n'est pas fonction de vos avoirs. Elle n'est pas fonction des éléments qui sont autour de vous. Elle est là, elle est en vous, un point, un trait. Vous avez une paix. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de besoin, que vous ne priez pas pour avoir le manger, le boire. Mais vous ne vous inquiétez pas. Vous avez de l'assurance que Dieu pourvoit. Alléluia. Et Dieu le promet stable parce que tu trouves que tu n'es pas marié. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. La paix de Dieu est supérieure à la paix que donne le foyer. Si tu es profondément angoissé, tu es au bord d'abandonner la main du Seigneur parce que tu n'es pas encore marié, tu vois, ça c'est l'échec à la première tentation. Tu es au bord de faiblir parce que c'est les besoins que tu estimes primaires, Dieu ne les a pas encore manifestés dans ta vie. Tu es au bord de choix à cette première tentation et beaucoup de gens échouent là. Vous savez, vous pensez que si Israël avait de l'eau quotidiennement, vous pensez qu'ils allaient murmurer? Ils ont eu soif. Ils ont été mis dans une situation de manque. Tu ne peux pas te rendre compte que tu as libéré des besoins primaires, que tu as une totale confiance en Dieu. Tu ne peux jamais te rendre compte de cela si Dieu ne t'en prie pas un moment. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger. Le chrétien, la première tentation, tu dois arriver à un niveau où que ce soit là, que ce ne soit pas là, tu bénis l'Éternel. Alléluia. Tu es serein. Mais tu sais que c'est une nécessité. C'est bien de se marier. Tu vas prier pour ton mariage. Mais tu n'es pas en train de paniquer, de pleurer la nuit, de menacer Dieu. Et s'il ne fait pas attention, tu vas chuter. Et des choses comme ça, là. Hein? Non, Seigneur, je ne te comprends pas. Ça, c'est la première tentation du désert. La première tentation dans le désert. Si tu n'interviens pas maintenant, moi-même, enfin, voilà, hein, je ne te comprends même pas. Ma soeur s'est mariée, eux ils ont ce nom. Regarde, depuis là je prie, je ne peux même pas trouver un bon boulot. Je ne peux pas trouver un bon boulot. Voilà. Dans le monde avant j'étais mieux. J'aurais fait des choses, je serais riche. Mais à cause de toi, Seigneur, première tentation. Oh frère, passez-la vaillamment. Alléluia. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Jésus. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Vous savez, le verset ne dit pas exactement que Dieu va t'exaucer. Il dit, fais savoir à Dieu tes besoins par des prières et des supplications. Il faut savoir supplier. Dis, Seigneur, pardon. C'est ce qu'on appelle la supplication. Pardon. Je n'ai pas retrogradé, mais là. Besoin. Alléluia. C'est ce qu'on appelle supplication, ok? Je sais que tu as raison. Quand c'est comme ça, il faut pas parler à Dieu comme ça, ok? Mais c'est écrit dans supplication. Le verset dit supplication. Et supplier quelqu'un, ça veut dire supplier. Alléluia. Là, tu comprends dans ta chambre, papa, j'ai. Ce problème-là, c'est vrai, je comprends. Tout ça, j'ai. Ok, gloire à Dieu. Je sais que ma joie n'est pas dépendante du mariage, du célibat, je suis heureux, je suis... Mais pardon. Je veux me marier. Je veux mon mari. Il faut supplier. Alléluia. Mais il ne faut pas murmurer. Amen. Il faut prier. Et la Bible dit quoi? C'est pas qu'il va vous exercer immédiatement, mais la Bible dit sa paix va garder vos cœurs. Chaque fois que vous allez vous exprimer comme ça devant Dieu, il y a une paix qui va vous remplir. Une sérénité. Alléluia. Et si le temps de votre miracle arrive, Dieu le fera instantanément. Tout que ton compte est à 1000 euros, là, il y en a à 1000 euros, tout va bien encore. Ça va, ils sont encore prospères. À 20 euros,
Maintenant, même quand ils sont en moins, bon, peu importe. Mais il faut que vous puissiez vous trouver dans une situation comme ça et pouvoir continuer à bénir Dieu. Pour dire, je ne suis pas inquiet. Je sais que je vais manger, je sais que je vais boire. Bien. La deuxième tentation. Exode, le chapitre 16. La deuxième épreuve du désert, versets 2 à 3. Je commence au verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en amassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. La deuxième tentation du désert, c'est la nostalgie. Le passé. Ici, Israël a commencé à murmurer en se rappelant ce qu'ils étaient avant d'être dans le désert. Alors, vous allez arriver un moment dans votre désert. Vous allez voir que tu as envie de dire à Dieu, mais tu commences à penser, mais avant. Et le diable vient te miroiter tes plaisirs d'avant. Comment? C'est vrai que tu n'étais pas heureux. Mais vous savez, en ce moment-là, Israël qui souffrait, qui pleurait sous l'esclavage, trouvait maintenant que l'esclavage même était mieux. Effectivement, regardez, imaginez-vous un peuple, des mères avec les enfants, qui sont en train de voir leur enfant mourir de faim. Leur enfant, qui en soif, mais vous avez envie de lancer des pierres à Moïse. Il ne dit pas, c'était pas de la convoitise au début. Après, ça va devenir de la convoitise. Mais ce qu'il demandait, c'était des besoins vitaux. Juste pour vivre. Il ne demandait pas à Moïse, nous on veut devenir des millionnaires. Il dit, on veut boire. On a faim. Alléluia. La première tentation, c'était comme ça. La seconde, ils ont commencé plutôt à se rappeler ce qu'ils étaient en Égypte. La nostalgie. Ah, c'était la période où tu te souvenir de comment tu étais. Mais avant, j'étais bien. Avant. Et vous voyez les frères qui étaient dans cette période, ils aiment citer quelquefois leur période du monde. Frère, avant dans le monde, toi, tu. Il y en a même souvent sur le plan du caractère. Si j'étais pas converti, mon frère. Quand j'étais dans le monde là, tu ne peux pas me parler comme ça. Je t'aurais montré quelque chose là. Et dans votre désert, vous allez arriver à une période où le passé va revenir très fort dans votre esprit. Très fort. Satan va vous faire miroiter la période de la liberté du monde. Vous faisiez ce que vous voulez. Alléluia. Alléluia. En ces temps, il faut avoir la victoire. Et comment on arrive à avoir la victoire sur la nostalgie? Pour avoir la victoire sur la nostalgie, il faut avoir une vision. Alléluia. Si vous ne savez pas où vous partez, vous allez toujours vouloir regarder derrière vous. Il faut regarder devant, pas derrière. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas mis des yeux dans le dos. Il aurait pu mettre deux yeux ici et puis un œil quelque part sur la nuque ou sur le dos là, quand tu marches. Mais Dieu a voulu que nous puissions regarder devant. Pourtant, on peut être en danger derrière. Quelqu'un peut nous poursuivre, nous taper dans le dos. Mais Dieu a voulu que nous regardions devant. Il faut avoir une vision. Mes amis, la vision est importante. Alléluia. Une des choses qui va vous faire réussir votre désert, c'est votre vision. Et votre détermination à atteindre cette vision. Si vous n'avez pas de détermination à atteindre la vision, vous allez devenir nostalgique dans le désert. Alléluia. Vous savez, une des premières choses que donne le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans le livre des Actes, à la Pentecôte, voilà ce que Pierre disait, rappelant la prophétie de Joël. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieux auront des songes. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement le parler en langue. Le Saint-Esprit donne une vision. Amen. Alléluia. Il dit, il va vous donner des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Tu dois avoir une vision. Alléluia. C'est ta vision qui va te donner une raison d'être. Quelque chose que tu veux atteindre. Alléluia. Si tu n'as pas de vision et tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, bon, il y a des principes. Vois ton pasteur, il va t'expliquer comment retrouver sa vision. Hein, tu les rencontres, ils vont t'expliquer comment on peut retrouver sa vision. C'est sa spécialité. Parler de la spécialité de parler de la vision. Et retrouve ta vision, prie pour l'avoir. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, sachant qu'ils avaient besoin de ce Saint-Esprit-là, qui va leur donner des dons spirituels et qui va leur donner la vision, il leur a dit, mes enfants, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Frère, Jésus n'a pas commencé son ministère sans esprit. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens négligent autant la présence du Saint-Esprit. Vous savez, les gens n'aiment pas trop le Saint-Esprit. On dit quoi, les gens n'aiment pas trop le Saint-Esprit? Parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit est un peu désordonné. Parce qu'on a l'impression que si on lâche, on ne peut pas trop le contrôler. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Et quelquefois, je fais la reproche même, je dis quelquefois aux écoles bibliques, je dis, vous savez, une des choses qui manque le plus dans les cours bibliques, c'est de faire prier et jeûner les élèves jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'onction de Dieu. On donne des diplômes à des gens après qu'ils aient une formation théologique et biblique. Les apôtres ont travaillé 3 ans de formation avec Jésus-Christ, mais il leur a dit, ne quittez pas sans le Saint-Esprit. Jésus a marché pendant 30 ans, mais avant de commencer, il est resté 40 jours jusqu'à ce qu'il reçoive l'onction de Dieu et s'est revêtu de la puissance de Dieu qu'il est sorti. Ta connaissance, ta sagesse ne suffisent pas pour te faire atteindre ta vision. Il te faut l'onction de Dieu. C'est tellement prioritaire dans la parole de Dieu que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens négligent la naissance du Saint-Esprit. Les gens pensent que ça va venir automatiquement, ça ne va pas automatiquement. Jésus a soufflé, il a dit sur les disciples, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé, mais ils n'ont pas reçu immédiatement. Ils ont prié pendant 10 jours. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Vous vous dites sûrement que non, mais si c'est le plan de Dieu, ça va venir seul. Ce n'est pas comme ça les choses fonctionnent. Il y a des choses, quand c'est le plan de Dieu, ça vient sans te prévenir. Mais il y en a, il faut chercher. Alléluia. Il faut prier pour les avoir. Il faut jeûner. Parce que quand tu pries et tu jeûnes, Dieu crée en toi une transformation pour te rendre disponible à recevoir le Saint-Esprit. Mais ne continue pas dans ta destinée sans avoir eu ta vision. Et la vision vient, c'est un don, ça vient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera une vision. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie d'un individu pour rien. Quand il vient dans ta vie, quand il te remplit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Quelque chose se passe en toi. C'est pourquoi si tu as prié que tu as reçu le parler en langue, il ne faut pas t'arrêter au parler en langue. Prie pour connaître ta vision. Prie pour savoir. Prie, prie. Alléluia. Prie jusqu'à ce que tu l'aies. Prie. Jésus n'a pas dit, vous allez prier pendant 10 jours, mes enfants, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il dit, priez jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'aurait pas dit quand. Si ça devait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, il l'aurait fait. Il n'a pas dit, priez, je vous donne 10 jours pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit, priez jusqu'à ce qu'il vienne. Mais nous voulons voir, nous aujourd'hui, on est devenu tellement technique, tellement speed. Alors, on veut que Dieu programme tout. Saint-Esprit, Seigneur, je te donne 3 jours. J'ai 3 jours prévus de jeûne et prière pour le Saint-Esprit. Il faut qu'à la suite de ces 3 jours, l'onction soit venue. Après ça, je n'ai pas le temps. Je suis très busy. Je passe à autre chose. Et c'est ainsi que les chrétiens meurent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher la présence du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Jésus dit jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Quand il a fini, lisez Luc 4. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, prêchez. Alléluia. La Bible déclare que dans les 30 années, avant de commencer son ministère, Jésus grandissait en stature et en sagesse. À 30 ans, il avait compris. Mais il savait que ce n'est pas parce qu'il comprenait les mystères. Ce n'est pas parce qu'il était capable de tout expliquer qu'il avait commencé à prêcher. Il lui fallait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne la vision. Et en même temps, la détermination. Alléluia. Parce que non seulement il faut avoir la vision, mais il faut avoir de la détermination. Frère, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'obtiendrez rien. Il y a des gens qui veulent que Dieu, ils veulent s'asseoir dans leur maison, ils veulent que Dieu vienne les visiter sans faire d'efforts. La Bible dit, on ne donne pas les perles ou le pourceau. Et quand il parlait ainsi, Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Non, Dieu chérit son esprit. Il n'en va pas dans n'importe qui. Faites attention. Le temps de prière que Dieu vous demande d'avoir est le temps de préparation lié à vous-même qu'il vous faut pour recevoir le Saint-Esprit. Si Dieu estime que toi tu as fait 40 jours, parce que ce n'est pas figé. Il sait qu'en 3 jours, il peut donner à une personne. Il sait qu'en 10 jours, il peut le faire pour une autre. Il sait que toi, ça, il te faut un mois, il te faut un an, mais tu vas prier jusqu'à ce que tu l'aies. Alléluia. Et quand vous allez, il faut que vous soyez déterminé par rapport à votre vision. Il faut être déterminé. Vous savez, je n'ai jamais vu Jésus dans la parole de Dieu courir derrière les malades. Vous n'avez pas fait attention à ça? Vous n'avez pas remarqué que Jésus ne partait pas? Regardez, il y a une maison qui est ici, il y a un malade là-bas. Et puis il partait. Non. La seule fois que Jésus s'est levé de lui-même pour aller prier pour un malade, c'était celui qui était devant l'eau depuis 38 ans. Mais les gens venaient le solliciter. Là-bas, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle s'est arrêtée dans la foule. Elle dit, celui-là, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens auraient voulu? Que Jésus s'arrête là. Il dit, oh, je reçois une parole de connaissance. Il y a une femme qui est dans le fond, qui depuis 12 ans a une perte de sang. Femme, aujourd'hui, le Saint-Esprit est guéri. Non. Elle allait rester avec sa maladie si elle ne prenait pas son courage pour se lever. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'aurez rien de Dieu. Alléluia. Il faut être déterminé. Bartimée était déterminé. Les gens disent, Bartimée, tais-toi. Jésus passait et dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, Bartimée, tais-toi. La Bible dit, il a crié plus fort. La femme syro-phénicienne est venue voir Jésus, guéris ma fille. Là, Jésus s'est comporté en mauvais pasteur. Il dit, madame, je t'aime bien. Je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu sais, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. C'est pour dire qu'elle est les chiens. Ça, mais c'est ça. C'est eux les chiens. Et le pain, c'est pour les enfants. C'est une parole vexante. La femme dit, mais les petits chiens mangent les miettes. Donne-moi les miettes, Seigneur. Ça s'appelle quoi? La détermination. Si vous n'êtes pas déterminé dans votre vie, vous n'aurez rien. Si vous voulez vous contenter de venir vous asseoir à l'église, suivre votre culte, rentrer à la maison, manger, dormir, vous réveiller, vous ne voulez rien faire, vous attendez que Dieu vienne, un jour vous allez arriver à l'église, puis l'homme de Dieu arrive avec tellement d'onction que ta maladie va finir. Frère, tu vas rester très longtemps malade. Tes problèmes seront réglés. Tu vas rester très longtemps. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait spontanément. Mais il y a des éléments, quand vous arrivez dans le désert, il faut chercher. Alléluia. Je vous ai dit, amen. Dans le désert, il faut chercher, frère. Chercher. Si tu veux t'arrêter, tu ne trouveras rien. Même les choses les plus évidentes que Dieu t'a promises, il faut les chercher. Et je vous ai dit la dernière fois, Hébreux chapitre 5, verset 7. Moi, c'est le passage qui m'impressionne le plus dans la recherche. Hébreux 5, 7. Il est dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est dit ici de Jésus que c'est lui, Jésus, dans les jours de sa chair, qui a présenté à Dieu des prières et des supplications avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Ça veut dire quoi? Je dis ici dans ce passage, Jésus a prié pour sa propre résurrection. La Bible dit que Christ a prié pour être sauvé de la mort. Pourquoi je dis que c'est sa résurrection? Parce qu'il y a deux éventualités. Soit il a prié pour ne pas mourir, soit il a prié pour ressusciter. Mais comment nous savons que c'est la résurrection? Parce que le verset dit qu'il a été exaucé. S'il avait été exaucé pour ne pas mourir, ça veut dire que Christ ne serait pas mort. Donc il n'a pas prié pour ne pas mourir. Il a prié pour sa résurrection. Le passage parle de la résurrection de Christ. Il a été exaucé par rapport à sa résurrection. Pas pour ne pas mourir. Sinon, ce n'était pas un exaucement parce qu'il est mort. Alléluia. La Bible dit que Dieu l'a exaucé. Mais sa résurrection, c'est pas ce qui a été prévu depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas les prophéties qui sont annoncées. N'a-t-il pas lui-même prophétisé ça? Pourquoi a-t-il besoin de pleurer, de crier, pour que Dieu réalise ce que lui, Dieu lui a promis? C'est une prophétie. C'est déjà annoncé. Il aurait pu s'asseoir tranquillement pour dire, je veux ressusciter. C'est écrit. Lui-même qui dit, crucifiez-moi. De même que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Je serai 3 jours et 3 nuits. et je vais ressusciter. Mais pour que ce qu'il a prophétisé arrive, il est monté dans la présence de Dieu. Supplié avec des larmes. Mais comment quelque chose qu'on t'a promis, tu pleures pour avoir? Ça, je ne comprends pas. Crier, je veux ressusciter. Pleurer. Et ayant été exaucé. Alléluia. Vous savez, quand vous arrivez dans l'étape du chercher, je vous ai dit, ne confondez pas l'étape du demander et l'étape du chercher. Dans l'étape du chercher, ce que vous allez obtenir, vous allez crier. Vous allez prier. C'est là que Dieu va vous apprendre la prière. La prière. Tu n'aimes pas prier. Si tu n'aimes pas prier, tu ne verras rien, mon frère. Arrêtez de voir la vie en facilité. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a eu un grand ministère sans vie de prière. Sans vie de jeûne. Il y en a qui aiment trop manger. Ça va vous mettre en retard. Dans le désert, il faut chercher. Quand il faut chercher, tu dis non, mais est-ce que j'ai besoin de jeûner? La foi suffit. Frère. Jésus, le Fils de Dieu, a fait 40 jours. Toi, tu aimes manger? Là, les frères, quand on va leur demander de jeûner, pasteur, c'est là qu'on dit, il y a un jeûne à l'église. Tu sais, pasteur, quand je jeûne, j'ai mal. Ça, c'est mon ami Comé Félix qui dit ça dans une de ses prédications. Mais il dit, quand je jeûne, j'ai mal, parce que j'ai mal à l'estomac, je dois prendre des trucs. Parce que quand je jeûne, j'ai le vertige. Mon frère, tout le monde, quand tout le monde jeûne, tout le monde a le vertige. Si tu jeûnes et tu n'as pas le vertige, c'est que tu manges. Quand je jeûne, je tremble. Je ne me sens pas bien quand je jeûne. Mais qui se... Demande à quelqu'un si quelqu'un se sent bien quand il jeûne. C'est trop difficile. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut faire des jeûnes de 3 jours. Jeûne d'esthèse, sans manger, sans boire. 3 jours pour voir tes miracles se produire. Alléluia. Ta destinée ne compte pas sur un pasteur. On peut t'enseigner la parole de Dieu. Mais si toi-même tu ne t'es pas levé, non, tu ne verras rien. Aucune personne ne peut te soulever pour te faire entendre ta destinée. Personne. C'est toi-même qui vas décider. Tu dis non, je suis trop longtemps resté assis. Les choses doivent changer. Et je vais tendre ce vers quoi Dieu m'appelle. Vers ce vers quoi Dieu m'appelle. Amen. Il faut être déterminé à avoir une vision. Et c'est ainsi que tu vas arriver à vaincre ta nostalgie. Si tu t'arrêtes sans détermination, tu vas commencer à penser au passé. Mais si tu vas vers un but, tu ne regarderas pas en arrière. Tu vas regarder vers le but. L'apôtre Paul dit, je cours. Je ne regarde pas en arrière. Ah, je cours. Il dit, je regarde tout ce que j'avais acquis avant comme de la pourriture. Philippiens chapitre 3. Tout ce que j'avais, tous mes avoirs passés, je considère que c'est de la pourriture. Parce que ce que j'aurai sera 100 fois ce que j'ai perdu. Et quand vous savez que ce que vous allez avoir sera 100 fois ce que vous avez perdu, et quand vous savez que ce que vous allez avoir contribuera au salut de plusieurs dans le monde, quand vous savez que votre bénédiction sauvera des milliers de gens, vos familles seront sauvées, ceux qui souffrent de la famine n'auront plus la famine. Quand tu sais que la manifestation de ton talent, la manifestation de ta vision, peut-être arrêtera les guerres, arrêtera le trouble. Quand ce que Dieu a déposé à toi est capable de changer le monde, amener plusieurs à quitter de la pauvreté, à richesse. Voilà les choses que Dieu a déposées en toi. Mais si tu ne te lèves, rien ne se passera. Alors quand tu as une vision comme ça, quand tu sais ce vers quoi Dieu t'appelle, non, tu ne peux pas regarder en arrière. Paul dit, ce que j'avais, je considère comme de la pourriture. C'est de la pourriture. Pourquoi de la pourriture? Parce que ce que je vais avoir est beaucoup trop grand. C'est ce qui va vous éviter la nostalgie. La troisième tentation. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans la main, dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» La troisième tentation du désert, la troisième épreuve, c'est douter de la présence de Dieu. Ils disent, ils ont tenté Dieu en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas ?» En fait, ils ont eu les mêmes réactions qu'ils ont eues précédemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? Ils ont commencé à se dire, mais sûrement Dieu n'est pas parmi nous. Quand vous allez arriver dans votre désert, à un moment donné, vous doutez de savoir, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il est là encore? C'est dans cette période-là que vous allez commencer à beaucoup chercher, tourner de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Alléluia. Mais vous n'obtiendrez rien. Vous aurez peut-être juste des messages qui vont vous aider, qui vont vous consoler, qui vont vous édifier. Mais si vous êtes dans l'état de chercher, ces messages-là risquent très peu de changer votre situation. Oui. Jusqu'à ce que vous arrivez dans l'état de frapper. Pas parce que les messages sont faux. Ce sont des principes. Mais quand on est dans le désert, quels que soient les principes que vous appliquez, ça ne veut pas dire de ne pas les appliquer. Mais tout ce que vous appliquez ne marche pas directement, en fait. C'est comme des semences. Amen. Ce sont des semences que vous portez. Mais il ne faut pas vous relâcher pour autant. Il ne faut pas vous relâcher. Parce que si vous vous relâchez, vous n'allez rien récolter au temps de la moisson. Ok? Alléluia. Et la troisième tentation, c'est de douter de la présence de Dieu. Dans un bon moment dans le désert, la troisième tentation m'a beaucoup fatigué. Un esprit de culpabilité. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est lui-même qui me parle? Est-ce que c'est lui-même qui m'a dit de venir ici? Suis-je vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est dans ce lieu que je dois prier? Ils ont douté en disant, Dieu est-il là? L'Éternel est-il avec nous? Ou n'est-il pas avec nous? Est-il là? Ou n'est-il pas là? Et ça arrive bien souvent. Vous savez, dans les 3 à 4 premières, dans les 5 premières, parce que les 10 tentations sont divisées en deux groupes, 5-5. La cinquième tentation sera l'ultime. C'est après ça que tous les problèmes vont commencer. Si vous remarquez bien, toutes les autres tentations qui précèdent la cinquième, Dieu ne s'est pas vraiment fâché avec Israël. Il pleurait, tu faisais un miracle. Il pleurait, tu faisais un miracle. Tu vois, aucune parole de condamnation, aucune personne n'a été tuée, Dieu n'a frappé personne. Mais c'est après la cinquième erreur qu'il va commencer à, que les gens vont commencer à mourir dans le désert. Dieu va les frapper. Et nous allons arriver à la cinquième tentation. Alléluia. Mais avant ça, je vais dire, ça peut être quelquefois même logique de se poser la question, mais Seigneur, es-tu vraiment avec moi? Est-ce que c'est toi qui m'as dit d'arriver ici? Vous là, vous poserez dans votre désert. Suis-je vraiment là où je devais être? C'est une question qui est normale dans le désert. Alléluia. Amen. Qui se la pose parmi nous actuellement? Qui se la pose? Ok. C'est normal d'être arrivé là. Mais je vais t'assurer d'une chose. Matthieu chapitre 28, verset 20. Le Seigneur dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Lorsque j'allais passer par cette période, même dans la période du désert, le Seigneur m'a donné une vision. Le Seigneur m'a accordé une vision. Dans la vision, je venais d'avoir juste mon bac. J'avais passé par des moments difficiles déjà. Et le Seigneur m'a donné une vision. Dans la vision, j'ai vu que j'allais atteindre la destinée, mais je voyais que je passais par un chemin qui était sombre, tortueux et noir. Et le Seigneur me dit, prends ce chemin. Je dis, mais Seigneur, il y a un chemin qui est beaucoup plus clair. Où est le raccourci? Dieu dit, non, prends ce chemin. Je dis, mais Seigneur, c'est très noir. Il dit, quand tu vas arriver dans ce chemin, tu ne vas plus rien comprendre dans la volonté de Dieu. Tu seras vraiment troublé. Mais il y a une seule chose qui va te garder. Sache que je suis là. La voix de Dieu même sera contradictoire dans ta tête. Tu entends ceci, après c'est pas ça. Tu reçois une prophétie, tu crois que c'est Dieu, et puis tu t'en vas, c'est pas ça. Tu es sûr que Dieu t'a parlé, mais c'est pas ça. Voilà. Tu poses des questions. Souvent, ça peut être dans la période même où tu cherches à te marier. Tu es sûr que Dieu t'a dit, voilà telle personne que tu vas marier. Et puis la personne va se marier avec une autre personne. Et tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es, voilà, et tu ne sais plus. Tu es vraiment troublé. Et c'est ce qu'Israël a vécu. Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alléluia. Période de doute. Et Dieu m'a dit, voilà le chemin. Et pendant cette période, j'ai été vraiment troublé. Je me suis dit, tu te poses la question, mais est-ce que je ne suis pas possédé même? Peut-être qu'il y a un lien qui n'a pas été brisé. Frère, le lien est brisé. Amen. Sauf si tu te reproches de vivre dans le péché. Là, tu peux être sûr que Dieu n'est pas vraiment avec toi. Ici, je parle aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire, je suppose qu'on a fini les messages précédents, on a fini avec la chair, tout ça. On est vraiment décidé à demeurer dans la parole de Dieu, ok? Voilà. Mais si tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, que j'arrive à la troisième tentation, là, je t'assure que Dieu n'est pas avec toi. On va te poser trois questions. Répands-toi, change de vie, et là, tu pourras te poser des questions. Mais je parle de ceux qui vraiment ont une vie intègre avec le Seigneur. Tu sais que tu marches dans la vérité. Tu t'éloignes du péché. Tu as une vie de sanctification. Tu es fidèle à ton Dieu, mais tu ne comprends rien. Dieu est-il là ou n'est-il pas là? Et dans cette période de flou, Dieu te dit, je suis avec toi. Amen. Alléluia. C'est la période où Dieu va transformer ton raisonnement. Et Dieu va développer ta dépendance à lui. Vous savez, tous ces éléments-là répondent aux besoins de la foi, développer en vous la foi, la confiance en Dieu. Alléluia. La confiance en Dieu, c'est quoi? C'est dans ce qu'il a dit simplement. Il dit, je suis avec toi. Tu crois en ce qu'il te dit ou en ce que tu ressens ou en ce que tu vois. Là, tu vas travailler vraiment ta foi. Tu vois sa parole, mais dans ton corps, tu constates le contraire. Tu entends ce qu'il te dit, mais dans ta vie pratique, tu constates le contraire. Alors tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ou bien c'est un démon? Si tu paniques trop, tu vas aller voir un pasteur pour qu'on fasse la délivrance. Mais je te dis, reste tranquille, Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dans la période du désert, j'étais beaucoup éprouvé dans mes études. Et je sais pas, je vous ai rendu le témoignage, non, déjà? Hein? Bah, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai prêché, qu'est-ce que j'ai prêché. Bon, je vais dire, non, mais je passais le... Lorsque je me suis donné à Jésus, Dieu m'a rendu très brillant à l'école. J'étais un élève très moyen. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais brillant. Hein? Bon, mes parents sont musulmans, ma famille est musulmane, très pratiquante. Et parmi tous mes frères, j'excellais, j'étais le meilleur à l'école. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé en classe de seconde scientifique. J'ai fait une série, puis mathématiques scientifiques. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, première S, mais c'est première C. Et j'étais tellement... Mais j'ai passé beaucoup de temps à prier le Seigneur. J'avais à peu près 5 heures de prière par jour. Même malgré mes études. 2 heures le matin avant d'aller à l'école. 1 heure entre midi et deux heures le soir. Les 2 heures du soir, je répartissais. 1 heure, quand j'arrive de l'école, je prie, j'étudie, et puis 1 autre heure avant de me coucher. Et 1 heure entre midi et 2. Et Dieu a béni mon travail. Alors quand je suis arrivé en classe de première, je dis, bon, sûrement que plus je prie, plus je suis béni. Et j'ai fait passer mes heures de prière au minimum à 7 heures, 8 heures par jour. Malgré, et quelquefois je pouvais monter à 10 heures de prière. Je n'étudie pratiquement plus. Je vais commencer à travailler dangereusement mal. Les notes tombent horribles. Et je me posais la question de savoir est-ce que j'allais même passer en classe supérieure. Mais Dieu m'a fait grâce et je suis passé de justesse. J'arrive en terminale. Je dis, Dieu s'est glorifié. Mon temps d'épreuve est fini. Oh, je ne sais pas que ça a commencé. Et que maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas que je prie près de 10 heures par jour. Je vais ramener mes heures de prière à 5 heures, comme quand j'étais en classe de seconde. Et puis, voilà, Dieu va se glorifier maintenant dans mon école. J'avais changé de ville. Je disais, Seigneur, ici, il faut que tu te glorifies dans cette école, que je sois un élève supérieur à tous les élèves de très loin. Parce que je prêchais beaucoup. En fait, j'annonce toujours l'évangile, j'évangélise beaucoup. Et j'ai évangélisé pratiquement toute l'école. Chaque récréation, moi j'ai pas de récréation, chaque récréation, je sors, je rentre dans les classes. Les élèves qui sont assis, j'évangélise. Et j'ai fait de la 6e jusqu'à la terminale. Et je... Parce qu'en fait, dans chaque endroit où je suis parti, pour moi, je suis un pasteur à l'école. Je dois gagner les âmes de l'école, un point, un trait. Et je disais, Seigneur, c'est logique. C'est-à-dire que si je te sers, tu vas te glorifier. Donc, et les élèves m'appelaient déjà pasteur. Je dis, bon, glorifie ton nom. Il faut que, entre moi qui serai premier de la classe et le second, il faut qu'il y ait un minimum de 3 à 4 de moyenne entre nous pour que les élèves sachent que Dieu est vivant, il est puissant, qu'il est le Dieu des miracles. Et que, Seigneur, je crois que par là, ils se tourneront vers toi. Vous voyez, ça, c'est le raccourci. Hein? Alors, donc, le premier devoir de maths, je prie. Je dis, Seigneur, je veux 20 sur 20. Oui, parce que les élèves de ma classe étaient tellement brillants que si vous voulez avoir 4 de moyenne, ça veut dire qu'il fallait que dans les devoirs de maths, j'ai les 20. Je dis que 20, et puis dans les autres matières, bon, on allait se débrouiller. Le premier devoir, j'ai pris pour avoir 20. La note arrive, j'ai eu, je crois, 2 sur 20. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je continue à prier. Je dis, non, le prochain, ainsi de suite. Et chaque note, ce que je demande, j'ai l'impression que Dieu fait une symétrie à partir de 10 pour me ramener à l'inverse. Donc, je me retrouvais avec 3, 2, 0, 1. Dans cet temps, en maths, je ne comprenais plus rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier semestre est fini. Je dis, bon, sûrement que, comme j'arrive dans une nouvelle école, Dieu a voulu leur montrer que je suis un élève pas très fort et que le second semestre, il va me donner ce que je demande. Donc, comme les élèves savent que je ne triche pas et que je parle de Dieu, si je deviens donc excessivement brillant au second semestre, c'est que ça ne peut être que Dieu et là, ils se convertiront. J'ai prié, j'ai jeûné pour tout ça. Le second semestre arrive. Pareil. 20, j'ai 2. Je demande 15, ainsi de suite. Et l'année est finie. J'avais une moyenne prêtre envoyé de l'école. J'ai dit bon, mais je ne me suis jamais découragé. Je continuais toujours à évangéliser, à parler de Dieu à tout le monde. Je prêchais, j'étais dans le groupe de délivrance, j'évangélisais. Quand j'ai des petits congés, je me promène de village en village pour aller annoncer la parole de Dieu. J'ai toujours été gagné d'âme. Moi, c'est gagner les âmes. Et c'est comme ça. Et je ne me suis pas découragé. Alors, quand on arrive au bac, j'ai dit, bon Seigneur, tu m'as fait travailler mal toute l'année. Mais sûrement qu'au bac, tu vas te glorifier. Et je vais avoir le bac avec mention très, très bien, excellent, quelque chose de... Voilà. Tu vas se glorifier. Alors, je prends une feuille et puis j'écris toutes les notes que je vais avoir. Mathématiques, 20 sur 20. Physique, 20 sur 20. Sciences naturelles, bon, comme c'est une matière un peu comme ça, bon, 17 à 18 sur 20. Et j'ai écrit tout ça parce que la Bible dit, demande à Dieu ce que tu veux. J'ai écrit toutes les notes et j'ai commencé à prier. Prier. Et puis j'étudiais. Arrivé au bac, les premières matières sont les matières littéraires. Et puis, on arrive à mathématiques. J'ai demandé 20. Donc, pour avoir 20, il faut au moins finir le devoir. Même le premier exercice, j'ai tous les problèmes. Il faut que le miracle se produise. Je prends le deuxième exercice. Je me débrouille un tout petit peu. Le troisième, ça passe pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, je croyais que un ange allait apparaître, venir m'apporter la correction, j'allais recopier. Jusqu'à la fin du devoir, aucun ange n'est venu écrire la réponse au tableau pour que moi, je puisse voir, aucun ange. Et c'était pareil en physique et dans les autres matières. Le jour où j'ai fini l'épreuve de maths, j'ai dit, il semble que Dieu ne veut pas m'exaucer. Mais je ne me suis pas découragé. Pour calmer ma douleur, il y avait un païen qui passait dans la rue, je l'ai évangélisé. Et je suis arrivé à la maison. Alléluia. Parce que quand je suis triste, je parle à quelqu'un, j'évangélise. Et ça va passer, je vais prier. Je dis, bon, sûrement que c'est pas grave, j'ai mal composé, mais Dieu va aller changer mes feuilles, la bague, il va me donner les notes que je veux. Donc je continue à prier. Vous savez, je ne sais pas me décourager. Alors j'ai prié. J'ai maintenu toujours mes notes que j'ai demandé à Dieu, malgré ce que je savais que j'avais écrit. Et le temps des résultats arrivait. Le jour des résultats, j'étais couché à la maison, l'Esprit de Dieu me dit, va voir ton ami, j'ai un ami qui s'appelle Emmanuel, va le voir. Je dis, mais le voir pourquoi? L'Esprit de Dieu insiste et j'arrive chez lui. Et chez lui, ce jour-là, bon, les résultats venaient d'arriver. Il avait appris qu'il avait eu son examen, donc c'était la joie, on était contents. Il a dit, mais mon maître, comment tu fais pour arriver ici? On a essayé de t'appeler, ça ne passait pas. On voulait t'informer que bon, le banc d'Emmanuel a marché, puis avant d'aller prendre aussitôt tes résultats. J'ai dit, ah, mais Dieu a insisté, j'étais couché, il me dit, viens voir ton ami. Donc le Seigneur voulait que je vienne pour me réjouir avec vous. Donc on a fait la fête. On était trois amis. On monte dans la voiture de son père, on va prendre les résultats du second, qui s'appelle Vincent. Vincent, gloire à Dieu, le bac a marché. On va à mon résultat. Échec. Oui, j'ai échoué au bac. Je regarde la feuille, le listing des élèves admis. Je monte dans la voiture, je dis bon, repartons. Je dis, mais pourquoi Dieu me réveille, me dit d'aller chez mon ami pour voir que lui, pour lui a marché. Et venir avec eux, constater le succès de tous les autres. Et avec tous les autres, me faire voir mon résultat d'échec. Il aurait pu simplement me dire d'aller voir mes résultats sans avoir à subir l'humiliation de voir les autres. Il vient insister, je vais oublier son esprit. J'ai prié pour avoir cette... Donc, quand j'ai vu que mon nom était bas sur la liste, j'ai dit, bon, je ne suis pas découragé. Je vais prendre la collante. Et d'ici la collante, Dieu peut faire un miracle. Quand je vais voir la collante, ils vont voir qu'ils se sont trompés. J'ai prié tout le week-end. Lundi, je vais voir ma collante. La collante, je regarde. En tout cas, j'ai eu les résultats que j'avais écrits. Alors, là, j'ai fait me décourager. Mais j'ai attrapé la feuille, ma collante, et puis j'ai dit, je marchais pour entrer à la maison. J'ai dit, Seigneur, je vais te demander une chose. Tu vas penser que je suis fou, mais moi, je m'en fous. Je lui ai dit, je veux le bac, ce bac que je, dont je tiens la collante, qui traduit effectivement ce que j'ai fait. Je veux cet examen. Je le veux. Je ne dis pas l'année prochaine. Je dis, cette année, donne-moi le bac. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai entendu des voix qui ont crié autour de moi, de joie, des chants d'allégresse. C'était comme des anges. Et une voix qui m'a dit, Mohamed, tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Alléluia. Dès cet instant, ma vie a été bouleversée. Je n'ai pas eu cet examen. L'année qui a suivi, j'ai eu le bac. Mais j'ai... Vous savez ce que c'est que la joie de Dieu? Ah non. J'étais devenu l'homme le plus heureux de la terre. Peut-être même actuellement, je le suis. Une joie indescriptible de Dieu est rentrée dans ma vie. Au point où j'étais obligé quelquefois de m'arrêter dans des endroits pour me cacher parce que j'allais rire. C'est-à-dire, je marche et je pleure de joie. Je m'arrête, je dis, mais Saint-Esprit, arrête un peu. Je suis trop heureux, trop. Je me cache dans la chambre. Quand j'arrive de l'école, quand j'ai repris l'année, je m'enferme dans la chambre et puis je pleure de joie. Oh, j'ai dit, mais des fleuves de joie coulent en moi. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes amis, Dieu est là. Amen. Même quand vous ne comprenez pas, Dieu est présent. Et si vous montrez que vous êtes déterminé, que vous sentez qu'il est là, même si les choses ne vont pas autour de vous, il est là. Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est donné, on va arrêter pour ce matin. Et puis atteindre le cinquième point, il ne faut pas le rater. C'est le plus important. Qu'est-ce qui a fait? Mais je suis au quatrième point. Qu'est-ce qui a fait? Là, on est au troisième, mais je ne vais pas arriver au... Il est quel? Je ne vois pas le bien temps. 13h20. Voilà, on va... Le quatrième point, c'est... Je vais éprouver votre patience. Alléluia. Exode 32. À partir du verset 1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Le peuple voyait que Moïse tardait. À un moment donné, vous allez voir que Dieu tarde. Et ça va produire en vous l'impatience. Et c'est cette impatience-là qui va produire la plus grave erreur. C'est-à-dire la cinquième tentation. La cinquième épreuve où Israël va échouer. Et c'est après cette épreuve que vous allez voir que Dieu va commencer à frapper Israël. Il va commencer à avoir des morts dans le désert. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. En fait, ce cinquième point-là, c'est un peu comme le pivot de tout. Parce qu'ils vont échouer à la cinquième épreuve. Les autres ne seront pratiquement qu'une symétrie. Il y a d'autres choses qui vont arriver, d'autres tentations qui vont arriver. La sixième, la septième, la huitième. Mais tout ça vient de ce que vous avez poussé, de ce qu'ils ont poussé les cinq premières. Et surtout la cinquième. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils arrivent donc dans la terre promise. Et Dieu va dire, vous m'avez tenté 10 fois. Maintenant, tous ceux qui m'ont tenté comme ça, vous allez mourir tous dans le désert. Mais ici, c'était l'impatience. Savoir attendre. Persévérer. Amen. Dieu va travailler votre persévérance. Il faut persévérer. Et l'impatience, lorsqu'elle est manifestée en vous, va vous conduire à poser des actes. Entre autres, le cinquième élément dont nous parlerons, en fait, il s'agira ici du veau d'or. On va décrire ce que c'est que le veau d'or. C'est le cinquième, qu'est-ce qu'on va faire? Comment? On parlera ce soir du veau d'or et on va le décrire en détail. Amen. Alléluia. Et de ce que c'est dans votre vie, c'est à quel moment dans votre vie on construit un veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Ça peut vous paraître étonnant, mais beaucoup de gens ont des veaux d'or. Beaucoup de gens ont des veaux d'or. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.